Je vais donner la parole dans quelques secondes à Corinne Joanneau, juste après l'avoir présentée en quelques mots. Donc, Corinne Joanneau est professeure de langue et littérature grecque à l'Université de Caen. Elle est membre du CRAM et elle est spécialiste de l'époque byzantine. Et elle a beaucoup travaillé sur la réception des auteurs anciens à l'époque byzantine et même jusqu'à la Renaissance, sur différents genres littéraires. Elle a travaillé sur différents genres littéraires, pardon, le roman grec par exemple, ou bien encore beaucoup aussi sur les historiens. C'est peut-être à ça que je vais limiter pour aujourd'hui cette présentation, parce que c'est pareil, de même que ce qu'Alban a dit pour Martin, il est impossible de donner toute la bibliographie de Corinne Joanneau, que vous retrouverez ceci dit facilement sur le site du CRAM si vous voulez la consulter. Donc Corinne a beaucoup écrit aussi sur les historiens des 11e et 12e siècles, les historiens grecs des 11e et 12e siècles, comme par exemple Michel Psellos ou Kekkoumenos, et elle a coordonné relativement récemment encore un ouvrage collectif sur les silences de l'historien. Voilà, vous avez aussi beaucoup donc travaillé sur l'histoire de la réception, comme j'ai dit tout à l'heure, par exemple assez récemment aussi sur la figure d'Alexandre. Vous allez nous parler aujourd'hui donc d'un autre auteur qui s'appelle Théodore Prodrome et sur ses poèmes historiques en l'honneur des empereurs Comnène. Voilà, merci Corinne par avance et je vous donne tout de suite la parole.
Merci beaucoup pour votre invitation. Je suis pas sûre que le document qui apparaît sur l'écran soit très lisible. Enfin, en principe, il a été distribué aussi par PDF. Donc, pour cette séance du cycle Poésie et politique, j'ai choisi de vous proposer une étude consacrée à Théodore Prodrome, qui est sans doute l'un des auteurs les plus prolifiques de la Byzance des Comnènes, donc 12e siècle. On lui doit une œuvre d'une étonnante variété, où coexistent écrits grammaticaux, philosophiques et théologiques, ouvrages de fiction, compositions rhétoriques et satiriques. Outre les poèmes historiques dont je vais parler aujourd'hui, il a composé un commentaire des Canons de Jean Damascène, un commentaire des Analytiques d'Aristote, une copieuse collection d'épigrammes sur divers épisodes de l'Ancien et du Nouveau Testament, une vie de Saint Médétios le Jeune, un gros roman de presque 5000 vers imité du roman antique, une épopée parodique, la Catamiomachie, qui est une réécriture byzantine de la Batrachomiomachie. Alors, pour ce qui est des poèmes historiques, dont le titre est imputable non à Prodrome lui-même ou à un de ses copistes, mais à leur éditeur Wolfram Hürntner, ils constituent un vaste corpus de 79 poèmes que Hürntner a qualifiés d'historiques parce qu'il s'agit de pièces de circonstances qui sont d'ailleurs d'étendue et de contenu fort variable. Une part importante de ces poèmes est adressée à des empereurs et impératrices ou à d'autres membres de la famille impériale. Alors, j'ai choisi de m'intéresser aux textes qui sont consacrés à l'empereur Jean de Comnène, qui, sur le plan à la fois littéraire et historiographique, fait un peu figure de parent pauvre comparé à son père Alexis Ier Comnène et à son fils Manuel Ier Comnène, parce que Anne Comnène, qui était la sœur donc de Jean Comnène, a célébré dans son Alexiade celui qui était le fondateur donc de la dynastie Comnène et d'autre part Manuel Ier et de tous les empereurs byzantins celui qui a suscité le plus grand nombre d'éloges. Sur Jean Comnène, ce sont précisément les poèmes historiques de Prodrome qui sont notre principale source d'information, avec deux discours en prose de Nicéphore Basilakès et de Michel Italikos, et pour ne citer que les sources qui sont disponibles en langue grecque, les brefs chapitres qui figurent dans les histoires de Jean Cinnamos et de Nicétas Koniatas, mais ce sont deux textes qui ont été rédigés après la mort de Jean Comnène. Alors, parmi les 29 poèmes historiques de Prodrome qui sont relatifs à Jean Comnène, il y a une douzaine de pièces qui évoquent des éléments familiaux ou politico-familiaux concernant l'empereur en question. Je les passe rapidement en revue. Donc, le poème 1 a été composé pour le couronnement du fils aîné de Jean, Alexis, en tant que co-empereur. Le poème 7 déplore la mort de sa première épouse, Irène. Les poèmes 13 et 14 célèbrent le mariage de deux de ses filles. Le poème 20 relate l'arrivée à Constantinople de l'Allemande Berthe de Sulzbach, qui était la fiancée du fils cadet de Jean, Manuel. Le poème 23 évoque la mort en bas âge de deux des petits-fils de Jean. Et pour finir, on a les poèmes 25 à 29, qui sont des poèmes funéraires qui ont été composés par Prodrome lors du décès de Jean II. Alors, 15 autres pièces de volumes parfois substantiels sont consacrées aux expéditions militaires menées par Jean Comnène en Orient entre 1132 et 1142. Et c'est précisément à ce corpus, qui représente un total de 2576 vers, que sera consacrée la présente étude. Alors, cette quinzaine de poèmes, vous en retrouverez alors à la fois les lemmes et donc la présentation très panoramique dans l'exemplier, donc les lames à la page 1, et puis donc vous avez un tableau à la page 2 avec les dates et circonstances historiques, le volume, etc. Alors précisément, les lames qui sont insérées en tête de ces poèmes nous fournissent des indications précieuses sur les circonstances dans lesquelles ils ont été composés ou prononcés. Donc les poèmes 3 à 6 célèbrent la victoire remportée par Jean II sur les Danishmendites et la prise de Castamon en 1133. Si vous voulez vous repérer, vous pouvez jeter un petit coup d'œil sur la carte. Bon, elle n'est pas très très lisible, mais enfin, donc vous voyez, Castamon, c'est au sud de la mer Noire. Alors, la forteresse en question, en fait, a été rapidement reperdue par les Byzantins dès 1134, et les poèmes donc 8 à 10 évoquent la seconde expédition qui, en 1135, a permis à Jean de reconquérir la cité en question et de s'emparer également de Gangra, qui était située dans la même région. Ensuite, alors les poèmes 11 et 12 sont consacrés à la grande expédition que Jean II mena en Sicile et en Syrie de 1136 à 1138 contre, alors d'abord Léon l'Arménien, ensuite contre la principauté d'Antioche qui était alors aux mains des Occidentaux, comme nous l'a rappelé Martin Aurel, et puis ensuite troisième cible de cette expédition, les musulmans de Chézar. Et donc sur cette campagne, nous possédons aussi les deux discours en prose que j'évoquais tout à l'heure, à savoir le discours de Nicéphore Basilakès et celui de Michel Italicos, qui était le maître et également l'ami de Prodrome. Et enfin, donc, les discours suivants, 15 à 19 et 24, évoquent des interventions de moindre envergure menées par Jean Comnène contre les Turcs de Lopadion et de Néo-Césarée entre 1139 et 1142. Alors, Prodrome n'est certes pas le premier à recourir à la forme versifiée pour célébrer les succès guerriers d'un empereur byzantin. Je vous cite deux précédents importants, à savoir celui de Georges Pisidès, qui, dans les années 620, avait composé des poèmes en dodécasyllabes, l'Expeditio Persica et l'Héracliade, pour commémorer les victoires d'Héraclius sur le Perse Chosroès. Et alors, deuxième exemple, qui date de la seconde moitié du Xe siècle, il s'agit de Théodose le Diacre, qui, lui, avait composé un panégyrique également en dodécasyllabes, intitulé « L'Allocis Tescrétès », qui célébrait la reprise de la Crète aux Sarrasins par Nicéphore Phocas. Alors, ce qu'il faut noter, c'est que Prodrome a joué apparemment un rôle pionnier dans la promotion de la forme poétique qui, au XIIe siècle, devient extrêmement à la mode. Et d'ailleurs, on peut remarquer que son roman « Les aventures de Rodanthe et de Cyclès » se présente comme une réécriture versifiée du roman antique qui était un genre en prose. Alors, pour ce qui est des poèmes historiques, donc en s'employant à promouvoir le discours de cérémonie en vers, il a, de la même manière, contribué à la mutation de l'antique Basilikos Logos, qui était un discours en prose dont les règles de composition avaient été codifiées au IIIe siècle de notre ère par Ménandre le Rhéteur. Donc il a contribué à la mutation de ce genre littéraire en une forme nouvelle. Et l'existence d'un volumineux ensemble d'éloges en vers qui ont été rédigés dans les années 1140 et 1150 par un contemporain, enfin un tout petit peu plus jeune que Prodrome et un imitateur, qui est communément désigné sous le nom de Manganeios Prodrome. Donc ce corpus atteste le succès rencontré par l'initiative de notre auteur. Et on constate que la mode des louanges versifiées s'est poursuivie au siècle suivant, au XIIIe et au XIVe siècle, avec des compositions poétiques, alors par exemple de Nicolas Irénikos en l'honneur de Jean III Vatatzès, de Manuel Olobolos en l'honneur de Michel VIII Paléologue, ou encore de Manuel Filès en l'honneur d'Andronique III Paléologue. Alors revenons à Prodrome, son originalité tient aussi au type de maître qu'il a choisi de pratiquer dans ses éloges versifiés. Alors dans les 15 poèmes qui composent notre corpus, on remarque, et là vous pouvez prendre le tableau, ça sera plus commode en fait pour suivre, donc on remarque la présence de deux vers différents. Alors, d'une part, l'hexamètre dactylique, utilisé dans les poèmes 3, 6 et 8, et d'autre part, le vers politique, donc, qui est employé dans les autres pièces. Alors, ce qu'il faut bien remarquer, c'est qu'avec ces deux maîtres, on est vraiment aux deux pôles extrêmes du spectre poétique byzantin. L'hexamètre, qui est un héritage évidemment de la poésie homérique, c'est un maître de rythme quantitatif qui est fondé sur l'alternance des syllabes longues et brèves et qui était doué d'un prestigieux pédigré littéraire puisqu'il a été illustré après Homère par, enfin, pour ne citer que les exemples les plus célèbres, le poète hellénistique Apollonios de Rhodes dans ses Argonautiques, ou encore, à date tardive, par le père de l'Église Grégoire de Nazianze dans bon nombre de ses poèmes théologiques et autobiographiques, et au Ve siècle de notre ère par Nonnos de Panopolis dans ses Dionysiaques, une vaste épopée mythologique qui était très appréciée des Byzantins. Alors, comme du fait de l'évolution de la langue, la distinction entre longues et brèves n'était plus perçue des auditeurs de l'Antiquité tardive, Nonnos, dans ses hexamètres, s'était imposé de prendre aussi en compte les accents toniques. Donc, il s'était efforcé de faire coïncider système quantitatif et système accentuel, une double contrainte qui, évidemment, donne à sa métrique pas mal de rigidité. Prodrome n'a pas suivi l'exemple de Nonnos. Il a choisi de revenir à la source homérique et de privilégier la seule quantité, c'est-à-dire qu'il adopte un système métrique qui est évidemment beaucoup plus souple que celui de Nonnos, mais qui pour le coup est tout à fait archaïsant, parce que ses poèmes en hexamètre sont du coup une poésie pour les yeux et non une poésie pour les oreilles. Alors, par ailleurs, dans les trois discours de notre corpus qui relèvent de cette catégorie, la patine ancienne est doublée d'adoption d'une langue qui est elle aussi résolument archaïque, puisque les textes en question sont rédigés en grec homérique, enfin, ou prétendu tel, parce que, en fait, on constate que, à l'influence prédominante de l'Iliade et de l'Odyssée, se superposent celles de modèles secondaires, notamment la tragédie grecque, la poésie hellénistique ou l'influence des pères de l'Église, tous auteurs que Prodrome met à contribution pour forger avec beaucoup de dextérité un idiome à la complexe et raffiné. Alors regardons maintenant le second maître, le vers politique, qui lui est un vers moderne de type accentuel, dont le rythme était par conséquent perceptible à l'oreille de tous les auditeurs byzantins, et cela d'autant plus aisément qu'il s'agit d'un vers isosyllabique qui est long de 15 syllabes et qui de surcroît présente une diérèse médiane après le huitième pied. Alors, le développement du vers politique semble avoir été fortement influencé par la tradition orale. Il a été utilisé d'abord dans l'hymnographie et dans les acclamations populaires, qui étaient l'un des éléments constitutifs de ce qu'on appelle parfois la liturgie impériale à Byzance. En lien avec le choix de ce maître qu'on pourrait qualifier donc de maître grand public, Prodrome utilise dans ses poèmes historiques en vers politique une langue qui, bon, sans être à proprement parler la langue vulgaire qui était en usage de son temps, est à coup sûr beaucoup plus simple et beaucoup plus contemporaine que celle des poèmes en hexamètre, une langue qui se rapproche de la koiné byzantine. Et le style même des poèmes en question, qui est un style volontiers itératif, contribue à en faire des textes qui sont d'un abord assez aisés, qui donnent une forte impression d'oralité en raison de leur caractère souvent incantatoire. Alors, ces deux séries de poèmes devaient s'adresser à des publics différents, on peut supposer que les poèmes en hexamètre, qui relèvent d'un type d'écriture accessible uniquement à un public de connaisseurs, ont été récités, alors soit dans le cadre d'événements restreints organisés à la cour impériale, soit dans le cadre de ce qu'on appelle les théâtras, qui étaient des cercles littéraires qui, dans la Constantinople de l'époque comnène, était patronnée par des aristocrates qui étaient souvent proches du pouvoir impérial et qui offraient aux intellectuels en quête de cachet un espace d'expression extrêmement apprécié. Alors, par contre, les poèmes en vers politique étaient destinés à une diffusion plus vaste. Ils ont dû être lus à l'occasion de cérémonies publiques et ils pouvaient évidemment toucher un public aux compétences hétérogènes. Alors, les lemmes de 6 de ces poèmes, le 4, le 5, le 9, 10, 11 et 12, comportent la mention « odem », « tois demos », ce qui signifie que les textes en question ont été composés pour être récités par des représentants de ces factions ou partis qui étaient répartis en quatre couleurs, les bleus, les verts, les blancs et les rouges, et qui représentaient le peuple byzantin lors des courses de l'hippodrome. Et l'édème, on sait que l'édème jouait un rôle essentiel dans le cérémonial impérial. Alors, quatre de ces syllèmes nous fournissent des précisions complémentaires qui permettent de cerner le cadre dans lequel se sont déroulées ces différentes prestations. On apprend donc que le poème 5 a été récité lors du triomphe organisé en 1133 pour célébrer la première prise de Castamon afin d'inviter l'autocrator à s'asseoir sur le char que la ville avait apprêté à son intention. Les poèmes 9 et 10 ont été prononcés par l'édème à Noël, le lemme dit à l'occasion de la naissance du Christ, et pour le second à l'épiphanie, le lemme précise donc à l'occasion du baptême du Christ. Alors pour ce second poème, il est possible en fait qu'il ait été prononcé lors de la cérémonie au cours de laquelle le maître des rhéteurs et ses élèves déclamaient des éloges, mais alors pour le coup des éloges en prose, en l'honneur de l'empereur, même si en fait on ne sait pas en toute certitude à quelle date exacte le rituel en question s'est mis en place. En fait, il n'est attesté de façon certaine qu'à partir du règne de Manuel Comnène. Et enfin, donc, le poème 12 a été récité à l'occasion d'une compétition hippique organisée par l'empereur pour le peuple de la ville. Alors, dans le poème 6, qui offre une description pour le coup en hexamètre du triomphe de 1133, Prodrome mentionne de manière très claire son rôle de parolier d'Édème en un passage qui paraît bien être une autoréférence aux poèmes 4 et 5 en vers politiques qui ont précisément été conçus pour la cérémonie en question. Je vous lis le passage que vous avez donc à la page 3 de l'exemplier, fin de la page 2 de l'exemplier. Et ensuite, les hommes d'Édème, donc des motailles Andrés, s'avançaient en murmurant d'une bouche réjouie des paeans versifiés, fruits de mon labeur, je ne le dissimulerai pas. Et ces hommes étaient répartis en quatre groupes en fonction de leurs vêtements, blanc, pourpre, bleu, vert, etc. Alors, outre donc ces références d'Édème, il y a un autre élément qui, dans les lemmes des poèmes en vers politiques, confirme leur affinité avec la tradition populaire des acclamations. Il s'agit des indications d'ordre métalittéraire qui précisent que ces poèmes sont formés de décastiques, décastica, c'est-à-dire de séries de strophes de divers. Il existe en effet un lien étroit entre acclamation et composition strophique, dont témoignent certains des chants, par exemple le chant gothique, qui ont été conservés dans le livre des cérémonies de Constantin Porphyrogénète. Alors, il convient malgré tout de ne pas trop forcer l'opposition entre, d'une part, donc, des poèmes en hexamètre appartenant à la haute littérature et puis, d'autre part, des poèmes en vers politiques qui relèveraient de la sphère vulgaire. Comme le remarque Paul Magdalino, le caractère populaire du maître choisi dans les poèmes historiques en vers politiques et l'utilisation d'une langue qui est relativement abordable ne doivent pas dissimuler, je le cite enfin en le traduisant, la formidable érudition philosophique et littéraire de Prodrome qui, dans ses textes, a su fusionner de manière novatrice la tradition antique de l'éloge rhétorique et celle médiévale des acclamations de l'hippodrome, en adaptant aux vers politiques les techniques et les thèmes de l'encomium. On pourrait, par exemple, assimiler le poème 4 à un épibaterios logos, un discours d'arrivée, le poème 5 qui invite Jean II à monter sur le char triomphal à un kletikos logos, un discours d'invitation, ou encore les poèmes 15 à 17 qui ont été composés pour le départ de Jean II en expédition à des propemptikoi logoi, des discours d'adieu, pour reprendre toute la terminologie qui était en usage chez les théoriciens de la rhétorique ancienne. Donc il existe en fait un degré assez important de porosité entre les poèmes historiques en hexamètre et ceux en vers politiques, un degré de porosité qui tient à ce qu'ils poursuivent un but qui est identique, qui est de célébrer alors à la fois la personne de l'empereur et le pouvoir impérial. Et ça explique que Prodrome exploite dans les deux groupes de textes un lot commun de topoi, dont je vais vous donner quelques exemples. Alors, l'empereur qui est présenté comme qualifié pour la victoire, les lemmes d'ailleurs des poèmes 8, 12, 16 et 24 le désignent comme mégalonikos, grande victoire. Donc, l'empereur reçoit dans les poèmes en hexamètre le qualificatif homérique de Ptoliportos, preneur de cité, à l'instar d'Achille ou d'Ulysse dans l'Iliade et l'Odyssée, tandis que dans les poèmes en vers politiques, il est acclamé en tant que Tropaioukos, détenteur de trophées. Dans les deux groupes de textes, il est régulièrement salué à titre de seigneur des Ozones, désignation qui rappelle à la fois les prétentions de Constantinople au titre de Nouvelle Rome et également ses aspirations à la domination universelle. Dans le poème 3, en hexamètre, on trouve la formule Anax Polymocté pour à titre d'adresse à Jean II, donc Seigneur tant éprouvé. Alors, la formule en question, elle évoque évidemment Ulysse, héros Polutlas ou Polupatès, pour reprendre le terme qui est utilisé par Eustade de Thessalonique dans ses commentaires de l'Odyssée. Mais en même temps, l'épithète en question, cette épithète de Polymoctos, elle renvoie aussi à une thématique qui est proprement byzantine, qui est celle du ponos impérial, de la peine que se donne l'empereur pour ses sujets. Une thématique qui, dans le poème 11 en vers politique, est illustrée par l'évocation des flots de sueur versés par l'empereur pour le salut de son peuple. Alors, dans le poème 6 en hexamètre, Prodrome compare longuement l'impatience joyeuse de Constantinople attendant le retour de l'empereur victorieux à celle d'une fiancée attendant la venue de son époux. Et ce faisant, il insiste sur le lien étroit qui, dans l'imaginaire impérial byzantin, unissait l'empereur et la cité reine. Or, ce lien, il est mis en évidence aussi dans les poèmes 9 et 10, qui sont deux hymnes en vers politiques, où la même thématique s'exprime, mais dans un registre un petit peu différent, à travers des prosopopées où la ville de Constantinople parle en tant que mère et servante de Jean II et formule le désir ardent de sa présence. On retrouve aussi dans les deux groupes de textes certains motifs qui témoignent des inflexions nouvelles introduites dans l'idéologie impériale par la dynastie des Comnène, qui est caractérisée donc par son esprit de conquête, ses tendances martiales et aussi par ce qu'on pourrait appeler son côté clanique. Alors, par exemple, l'emploi d'images cinégétiques pour parler des expéditions militaires de l'empereur illustre la conception plus agressive de la politique extérieure qui se développe à cette époque, et donc on trouve des métaphores de ce genre à la fois dans les textes en hexamètre et dans les textes en vers politiques. Prodrome, dans les deux groupes aussi de poèmes, accorde beaucoup de place au motif de la légitimité dynastique. Il se plaît notamment à présenter Jean II comme un empereur né dans la pourpre, et il le décrit volontiers entouré de ce qu'il appelle la tétrade de ses fils, l'aîné Alexis, donc qui avait été associé au pouvoir à partir de 1122, et les trois autres qui étaient Sébastocratorès. Alors, si les discours en hexamètre qui relèvent de la tradition épique et qui étaient d'ailleurs désignés par les Byzantins comme des vers héroïques constitue un médium particulièrement apte à magnifier la figure de l'empereur en exaltant sa valeur guerrière, leur tonalité archaïsante semble a priori beaucoup moins propice à la célébration de ses vertus chrétiennes. Et pourtant, on constate que les références à la piété de Jean Comnène n'en sont nullement absentes. Alors, quelques exemples. Dans le poème 8, l'empereur est qualifié de Megas Caritonumos Anax, de grand seigneur au nom plein de grâce, à l'instar de son saint patron, Jean l'Évangéliste, une part étymologie qui est exploitée aussi par Prodrome dans plusieurs de ses discours en vers politiques. Dans le poème 6, qui est une description donc en hexamètre du triomphe de 1133, Prodrome souligne avec beaucoup d'insistance l'humilité de Jean Comnène, qui refuse donc de monter sur le char impérial et cède la place d'honneur à l'effigie de la Vierge. Et toujours dans le même poème, on voit que Prodrome a choisi de consacrer les derniers vers de cette longue ekphrasis à l'entrée de l'empereur dans la basilique de Sainte-Sophie, où il dépose sur le Saint-Autel sa couronne royale, et donc en focalisant l'attention à la fin du poème sur cet élément-là, évidemment, il fait apparaître ce geste de piété de Jean II comme vraiment le point d'orgue de la cérémonie. Enfin, dans le poème 8, on voit la Vierge intervenir, telle Athéna aux côtés des guerriers achéens, pour inciter l'empereur à attaquer Castamon. Et Prodrome a ensuite inséré, en plein cœur d'une ekphrasis qui est consacrée à la bataille de Gangra, le texte d'une longue prière qui est adressée par Jean II à la Théotokos pour lui demander son soutien. Donc on voit qu'il brode ainsi sur un motif, le lien privilégié unissant l'empereur à la Vierge Marie, qui à nouveau est un motif beaucoup exploité aussi dans les pièces en vers politiques. Donc vous voyez que même dans ce poème 8, qui est un poème de facture homérique, Jean II apparaît comme un empereur élu de Dieu et qui est assisté dans ses entreprises par la grâce divine. Mais enfin, sans surprise, la thématique en question occupe évidemment une place encore beaucoup plus importante dans les textes en vers politiques qui, pour le coup, célèbrent à l'envi les vertus chrétiennes de l'empereur et développent aussi avec beaucoup d'insistance le motif de l'empereur Hélios, qui est un motif connexe. Puisque la symbolique solaire servait également à la célébration de Dieu ou à la célébration du Christ en tant que soleil du monde. Alors Prodrome exploite l'imagerie de l'empereur Sol Oriens, ce soleil levant, en écho parfois vraiment très direct aux acclamations de l'hippodrome, où l'apparition du souverain à la tribune était saluée par l'acclamation rituelle « Anateilon, lève-toi ». Le poème 12, qui a précisément été conçu pour être récité lors d'une compétition hippique, offre un bon exemple de l'exploitation de cette topique qui est introduite dès le vers d'ouverture et qui se déploie sur un mode incantatoire tout au long des trois premières strophes. Alors, je vous ai cité le tout début que vous avez dans l'exemplier. Lève-toi, donc Anateilon, très brillante autocrator des Romains, lève-toi pour tes esclaves, lui pour tes serviteurs, éclaire le théâtre de l'épanchement de ta lumière, etc. Et ça continue sur le même mode pendant une trentaine de vers. Dans le poème 10, qui est donc un hymne composé par Prodrome à l'occasion de l'Épiphanie, la dimension religieuse de cette thématique apparaît clairement, puisque Prodrome célèbre en parallèle le Christ, soleil de la justice, et l'empereur, soleil de la monocratie, qui parcourt inlassablement l'oïcoumène pour de ses rayons ses fidèles sujets et pour réduire en cendres les ennemis. Alors de fait, il est beaucoup question de ce qu'on pourrait appeler la sainteté de l'empereur dans les poèmes en vers politiques. Prodrome, qui dans les textes en question s'adresse volontiers à Jean Comnène en le qualifiant de théier basileux, de divin empereur, le présente comme loin du Seigneur et il multiplie les parallèles entre sa personne et celle du Christ. Il compare par exemple l'action salvifique du Fils de Dieu qui, je cite, brise les têtes des serpents et celle de l'empereur qui, lui, incline les têtes des barbares. Dans le poème 19, Prodrome évoque le dévouement avec lequel Jean II offre à son peuple donc à la fois sa propre vie et celle de ses fils qu'il associe à ses campagnes militaires. Et donc, il souligne la dimension christique d'un tel comportement, puisqu'il nous dit que Jean II imite ainsi la philanthropie de Dieu pour que soit sauvée l'humanité, pour que soit écarté l'esclavage. Et donc, la thématique de la guerre sainte occupe une place importante dans la mise en scène que les poèmes en vers politiques réservent aux expéditions de Jean II, que Prodrome décrit missionné par Dieu pour combattre les ennemis de l'Empire. On peut lire par exemple au début du poème 15 que Dieu à nouveau a fait lever le Comnène pour assurer la vengeance des fidèles et la ruine de la Perse. Alors, dans les textes en question, Prodrome use volontiers du procédé d'interprétation typologique qui était familier à l'exégèse chrétienne et il se plaît à associer les ennemis des Byzantins à des figures négatives de l'Ancien Testament. Donc les Perses, enfin, qui c'est la dénomination archaïsante des Turcs, donc deviennent dans les poèmes de Prodrome les descendants d'Agar, la servante d'Abraham, ou encore les fils d'Ismaël, tandis que les Byzantins, eux, sont assimilés aux fils de Sarah, à savoir de l'épouse légitime du patriarche. Les uns incarnent la maison de l'odieuse Ésaü, les autres celle de Jacob, et tandis que Byzance est qualifiée de fille de Sion ou de nouvelle Sion, les peuples contre lesquels Jean II mène campagne sont assimilés aux ennemis d'Israël et donc ils endossent le rôle de Moab ou celui de Babylone ou de la Syrie ou encore de l'Égypte ou de l'Éthiopie. Les exemples de cette vaste entreprise de réinterprétation typologique sont particulièrement nombreux dans le poème 17, où Prodrome délègue sa voix aux prophètes et utilise leurs mots pour tisser l'éloge de l'empereur en un texte qui est un vaste centon de citations vétérotestamentaires. Jean II lui-même fait évidemment l'objet du même jeu d'assimilation. Lorsque Prodrome, dans le poème 11, dit qu'il a la très pure Marie pour bâton d'Aaron, il l'identifie implicitement à un nouveau Moïse. Et l'évocation des fleuves, le Sangaris, le Cynos ou l'Euphrate qui s'inclinent devant lui confirme cette référence en rappelant l'épisode célèbre du passage de la mer Rouge. Dans le poème 17, notre auteur à deux reprises qualifie l'empereur de nouveau David, puis par la voix de Jérémie, il se sert du récit de l'élection du prophète pour dire l'élection du Comnène, choisi par Dieu pour devenir autocrator de toute la terre. Donc je vous lis le passage, vous l'avez dans l'exemplier. Donc voici, très grand autocrator des Romains, ce que Dieu te dit avec la langue prophétique de Jérémie. Je t'ai vu, je te comprends, je t'ai éprouvé. Avant que tu sois conçu en des entrailles, moi-même je te connais. Et avant que tu sortes du ventre de ta mère, moi-même je t'ai sanctifié et fait autocrator de toute la terre. Et devant tes pieds, j'ai mis les coups de tous tes ennemis. Et avec toi, je partirai et avec toi ferai campagne, te protégeant, t'abritant, assurant ton salut et ta garde dans tous tes jours et dans toute ta vie. Alors évidemment, les différents articles de l'idéologie impériale dont Prodrome se fait ainsi le porte-parole dans ses poèmes historiques se retrouvent aussi dans la plupart des éloges impériaux en prose. Et alors pour terminer cet exposé, je voudrais tâcher de voir si par-delà l'originalité formelle des poèmes de Prodrome, ces panégyriques versifiés présentent aussi des spécificités de contenu qui contribueraient à les démarquer des encomias de facture traditionnelle et qui, plus précisément, seraient induits par l'adoption de l'écriture en vers. Alors pour ce faire, je vous propose de procéder à une rapide comparaison entre les textes de notre corpus prodromique et les deux éloges composés par Nicéphore Basilakès et Michel Italikos pour célébrer la campagne de Jean II en Cilicie et en Syrie, la campagne qui est évoquée aussi dans les poèmes 11 et 12 de Prodrome. Alors, sans surprise, on retrouve chez les deux prosateurs la plupart des topoi exploités par Prodrome. L'heure de discours abonde à la fois en références homériques comme les poèmes historiques en hexamètre et en référence biblique, comme les poèmes en vers poétiques. Basilacas et Italicos font, comme prodrome, un grand usage de l'interprétation typologique, et on retrouve aussi chez eux l'idéologie de la guerre sainte, même si elle est beaucoup moins marquée chez Italicos que chez Basilacas, où l'expédition de Jean Comnène prend littéralement des allures de croisade. Alors, on peut certes repérer quelques écarts entre les deux groupes de textes. Bon, la plus frappante, c'est peut-être la fréquence chez les deux prosateurs des références à la geste d'Alexandre le Grand, alors que celui-ci est totalement absent des poèmes historiques. Mais la différence de médium, vers ou prose, peut difficilement expliquer une telle divergence. Alors que, me semble-t-il, il n'en va pas de même en ce qui concerne la forme prise chez nos trois auteurs par le matériau métadiscursif qui figure en abondance dans leurs éloges impériaux. Alors, tous trois exploitent certes le topos de l'orateur intimidé ou carrément vaincu par la grandeur des exploits qu'il entend célébrer. Bon, ça, c'est une figure tout à fait classique du discours panégyrique, mais on constate malgré tout l'existence de très sensibles écarts dans les propos que chacun des trois tient sur lui-même et sur son rôle d'encomiaste. Basilacas, que son auditeur Maizano présente comme le panégyriste officiel de la cour de Constantinople, formule avec autorité toute une série de considérations générales sur les pouvoirs de l'éloquence et sur la mission du rhéteur en lutte contre la fuite du temps. Il témoigne ainsi d'une conscience affirmée de son rôle comme maître de style et comme représentant d'un genre littéraire privilégié. Chez Italicos, la tonalité du métadiscours est bien différente et beaucoup plus revendicative. Il polémique contre les orateurs contemporains, ses rivaux, prétend que Jean n'a pour le louer que des joueurs de tric-trac et des rimailleurs, et surtout, bon, parce qu'il est mécontent de son poste de didascale de l'apôtre, il proteste avec aigreur contre les sycophantes qui l'empêchent d'accéder au grade supérieur, celui de didascale de l'Évangile, et il prie l'empereur de prendre les armes contre ces barbares de l'intérieur pour qu'il obtienne enfin la juste rétribution de ses peines. Et donc, dans son plaidoyer prodromo, il met en avant son ardeur, son originalité et son double statut de philosophe et d'orateur. Alors, venons-en maintenant à Prodrome, qui tient un discours très abondant sur lui-même, plus disparate, me semble-t-il, et un discours qui surtout est largement conditionné par le choix qu'il a fait de la forme poétique. Alors, le motif du poète mendiant, qui est au cœur des ce qu'on appelle les poèmes ptokoprodromiques en grec vulgaire, dont la paternité revient sans doute aussi à Prodrome, et donc qui mettent en scène un pauvre Prodrome qui sans cesse clame famine. Donc ce motif du poète mendiant, il occupe une place notable dans les développements autoréférentiels des poèmes historiques. Prodrome y développe le portrait plein d'autodérision d'un intellectuel de rang subalterne et de tempérament peu héroïque, serviteur né d'un serviteur, trois fois esclave, tridoulos de l'empereur, et trois fois plus lâche qu'un lièvre, trideilos, donc là il y a un jeu de mots sur les deux termes, et qui a pour principal ennemi la maudite pauvreté qu'il implore le souverain de combattre en sa faveur. Alors, l'élaboration de cet autoportrait comique, que l'on ne rencontre que dans les poèmes en vers poétiques, est assurément en phase avec l'éthos du maître en question, même si certains commentateurs ont estimé peu probable que les vers en question aient été déclamés lors de cérémonies publiques et pensent qu'il doit s'agir plutôt d'ajouts postérieurs. L'autre élément qui est mis en avant dans les passages autoréférentiels des poèmes historiques concerne la mission du poète, son rôle d'encomiaste. On le voit revendiquer fièrement dans le poème 8 en hexamètre la paternité d'écrit, exaltant les mégalatla erga du Comnéniade. « Je les graverai », déclare-t-il, « dans des livres, afin que la postérité aussi y ait part, qu'il ne meure pas, et que les étrangers fils d'Arès t'honorent comme un dieu », une affirmation qui paraît battre en brèche la thèse invoquée dans beaucoup d'études récentes, selon laquelle la poésie byzantine ne serait qu'une espèce de journalisme, et les œuvres des poètes byzantins des one-time events, répondant aux sollicitations du moment, mais sans aucun souci de la postérité. Dans le poème 6, qui est lui aussi en hexamètre, c'est à son rôle de parolier d'Édème que Prodrome fait référence lorsque, évoquant la couronne de discours tressée pour le grand empereur lors du triomphe de 1133, il affirme « Et si j'ai moi aussi œuvré tant soit peu à cette divine couronne, que d'autres de leur bouche la produisent, tandis que je garde le silence. » Alors, dans le passage en question, les dames apparaissent comme les porte-voix de Prodrome, mais en fait, Prodrome lui-même aime à se faire l'écho des prophètes et à emprunter, pour tisser la louange de l'empereur, la voix des héros de l'Ancien Testament, et notamment la voix du plus prestigieux d'entre eux, le roi David, qui était l'auteur supposé des psaumes. Alors certes, la référence à David en tant que chantre n'est pas complètement inconnue des éloges en prose, mais l'insistance que met Prodrome à revêtir le masque du psalmiste tient sans doute pour une large part à la forme de ces éloges, qui sont des éloges en vers, comme les psaumes de celui qu'il appelle le citharède ou le prophète musicien. Alors, regardons peut-être uniquement le passage du poème 11. « S'y suffisait, maître, pour dire tes faits de guerre, la langue, la voix, la bouche, le cœur d'un homme, à coup sûr, j'aurais à présent invité toute voix et toute langue chanteuse d'hymne à participer à une sublime proclamation, et je les aurais poussés à célébrer tes exploits. Mais puisque tes victoires sont victorieuses d'un esprit humain, c'est à David, le prophète musicien, que j'emprunte, empereur, les laudateurs de tes hauts faits, et j'invite aussi le ciel et les êtres inanimés à te chanter comme un dieu en des discours ineffables. Louez Jean, mon puissant Seigneur, vous tous, astres et lumières, soleil et lune. » Et là, en fait, on a une reprise du début du psaume 148. Dans le poème 17, donc, qui est un éloge en forme de centon, constitué d'une suite de citations des Écritures, c'est à David, encore, que Prodrome accorde le rôle de principal porte-parole, comme il l'annonce dans les deux strophes d'ouverture, où, invoquant son incapacité à participer physiquement aux expéditions militaires de Jean Comnène, il déclare qu'il fera escorte à l'empereur et qu'il combattra pour lui de ses prières en recourant par défiance envers son propre fond au médium de voix étrangères. Et donc il dit « Mais puisque je suis bien conscient de toute la sordidité de mon existence, je ne m'enhardis pas à t'offrir de moi-même les fruits de ma prière, mais c'est au sage prophète que j'emprunte mes dires, et surtout à la lyre de David, mise en branle par l'esprit, et je les prends à l'instant même pour collaborateur et compagnon de prière. » Et de fait, ce sont bien des paroles empruntées à David, c'est-à-dire au livre des psaumes, qui composent les cinq premières strophes de l'éloge de Jean II, et qui le referment en une seconde série de cinq décastiques. Et les autres citations qui sont tirées de 11 des 12 petits prophètes, des trois prophètes majeurs et de Daniel, viennent s'insérer à l'intérieur de cet anneau davidique. Il me semble que Prodrome joue un jeu assez ambigu en mettant ainsi la main sur la figure de David, qui était dans l'imaginaire byzantin l'archétype même du pouvoir impérial. Et donc, il met la main sur lui pour en faire un modèle du chantre inspiré, donc un tupos de ce qu'il est lui-même, à savoir un poète encomiaste. On est fondé à se demander si, en annexant ainsi le rôle de David, il ne s'emploie pas à voler subrepticement la première place à l'empereur. Alors, l'autre figure biblique qui, dans les passages autoréférentiels des poèmes historiques, entre en concurrence avec David est celle de Saint Jean-Baptiste, le précurseur, qui est un homonyme de notre poète, puisque prodromos, ça veut dire précurseur. Et donc, Prodrome invoque volontiers le nom du Baptiste en manière de sphragis, en manière de signature. L'ombre du précurseur apparaît de manière particulièrement insistante dans le poème 16, où Prodrome, à 4 reprises, s'assimile à celui qu'il présente comme la branche maîtresse des prophètes pour annoncer à Jean Comnène des triomphes qui prennent donc ipso facto une coloration christique. Dans la dernière de ces 4 séquences autoréférentielles, on voit toutefois reparaître aussi la persona du poète mendiant dont nous parlions tout à l'heure. Poète mendiant qui, tout en revendiquant pour ses vaticinations poétiques le patronage du Baptiste, s'affirme en rébellion contre l'ascétisme du prophète du désert. Donc je vous lis le passage qui est dans l'exemplier. « Tu as aussi en moi, Prodrome, donc le précurseur, un très ardent serviteur qui, depuis le rude désert, l'aride pauvreté, maudite et chagrine, revient aujourd'hui vers toi. Sauve-moi, je t'en prie, car je hais les sauterelles, je hais le miel amer, la ceinture de peau et l'épais vêtement fait de poils de chameau. Je suis de naissance la voix de celui qui crie. Qu'ai-je à voir avec le désert? C'est à la ville que je veux parler, ce sont les foules que je veux fréquenter, et c'est pour les brillantes victoires de ta majesté que je veux chanter le péan, puisse-t-elle se multiplier pour toi plus que le sable de la mer, que les astres du ciel et les feuilles des arbres. » Donc dans ces vers qui constituent la conclusion du poème, on constate qu'à nouveau, et de façon tout à fait claire, la figure du poète vient voler la vedette à l'empereur, que les premiers vers de l'éloge célébraient avec emphase comme le grand soleil de la nouvelle Rome. La place qui est accordée dans les poèmes historiques à la mise en scène de soi est en lien direct avec la situation socioculturelle que vivaient dans la Byzance de l'époque comnène ceux qui étaient, comme Prodrome, des écrivains professionnels soumis à une intense compétition pour décrocher les patronages indispensables à leur survie. Une compétition à laquelle plusieurs passages de notre corpus font d'ailleurs très clairement référence. Il est question dans le poème 6 de prestations concurrentes de la muse pédestre et de la muse poétique, à l'occasion desquelles les rhéteurs rivalisent avec les sages aux paroles sublimes, et le poème 19 s'ouvre sur l'évocation de l'agone auquel Prodrome va participer, ce sera notre dernier exemple. À nouveau, c'est un concours pour les orateurs, une compétition pour les logographes, pour les stichographes, une lutte plus rude que celle d'autrefois. À nouveau résonne la musique du péan en l'honneur des trophées impériaux. À nouveau, l'hymne célébrant la valeur et la fortune comnène. Allons, mon esprit, accouche de discours qui soient de noble souche. Arme-toi, main pour l'écriture. Mettez-vous en mouvement, doigts, etc. Alors, dans cette joute que Prodrome assimile ici à une lutte armée, il importait pour le poète de faire preuve de talent, de subtilité, d'inventivité même, pour avoir une chance de l'emporter sur ses concurrents. La présence dans le corpus des poèmes historiques de séries de discours composés par notre auteur pour une seule et même occasion peut être interprétée comme une démonstration de sa virtuosité littéraire. L'exemple le plus frappant en la matière nous est fourni par les poèmes 3 à 6 qui constituent autant de variations sur le thème du triomphe de 1133. au jeu sur les maîtres, donc deux discours en hexamètre et deux en vers politique. Se surajoute un jeu sur les formes d'énonciation. Le poème 3 se présente comme une narration encomiastique, le poème 5 comme une étopée, puisque l'Édème y présente une pétition de la part de la ville pour inviter donc à s'asseoir sur le char triomphal. Le poème 6 est très explicitement désigné comme une ekphrasis. Donc Prodrome exploite dans cette série de textes des procédés d'écriture qui étaient précisément ceux qui étaient enseignés à Byzance dans les classes de rhétorique à titre de progymnasmata. Ce genre de composition, en partie double, triple ou quadruple, semble avoir été à la mode à l'époque des Comnènes. L'œuvre de Prodrome lui-même fournit d'ailleurs d'autres exemples de pareils exercices de style, notamment ces tétrastiques sur des épisodes de l'Ancien et du Nouveau Testament, puisqu'ils sont conçus en diptyque, associant pour chaque épisode biblique un premier tétrastique en hexamètre, rédigé en stylomérique, et un second en vers iambique, écrit en koiné byzantine. Si les poètes comnènes se livraient à ces expérimentations de forme et de genre pour impressionner leurs patrons impériaux ou aristocratiques par une exhibition de poéquilia, il n'est pas exclu qu'ils aient aussi recyclé leurs compositions littéraires à titre de modèle d'écriture dans le cadre d'un enseignement de la rhétorique que beaucoup d'entre eux ont pratiqué et sans doute Prodrome lui-même. Autrement dit, et pour conclure, l'éloge impérial en partie multiple servait donc autant à la promotion de son auteur qu'à celle du Laudandus. J'espère que je n'ai pas été trop longue.
Merci beaucoup Corinne. Non, non, on est tout à fait dans les temps. Et on va avoir donc le temps pour des questions. Merci beaucoup. J'invite aussi bien sûr à tout le monde à applaudir Corinne Joanneau comme Martin a été applaudi préalablement. Donc on va passer aux questions et tout comme l'a fait Alban aussi, j'invite d'abord les étudiants à prendre la parole ou à utiliser le chat. Alors, Alban, si tu veux poser une question, vas-y, bien sûr, et puis tu peux reprendre le micro, hein, de toute façon.
Je vois un byzantiniste dans l'auditoire.
Oui, il y a un byzantiniste parmi nous, c'est Nicolas Drocourt qui est là, et je le remercie d'avoir assisté à cette session. J'ai une question au sujet de David.
Oui.
Vous avez montré, moi, ça m'a beaucoup intéressé, le fait que Prodrome identifie l'empereur à David, ce qui là est extrêmement, enfin voilà, ça, il n'y a pas de problème. Mais ici, enfin, il identifie à la fois lui-même poète et l'empereur à David, si j'ai bien compris.
Plus lui-même, en fait, quand il parle de David, c'est ça qui m'a en fait interpellée, c'est qu'il utilise beaucoup plus la figure de David pour parler de lui que pour parler de l'empereur. Alors que bon, a priori, évidemment, on attendait l'inverse, puisque David, on le trouve évidemment dans tous les panégyriques, en prose aussi byzantin, on le trouve dans le cérémonial, dans les acclamations de l'hippodrome, dans le livre des cérémonies de Constantin Porphyrogenète, il est extrêmement souvent mentionné, et donc ça m'a paru quand même un peu étrange.
Oui, en Occident aussi, Charlemagne, dans la poésie carolingienne, c'est David, sous la plume d'Alcuin, par exemple. Enfin, mais est-ce que ça, le fait que le poète lui-même s'identifie à David tout en continuant à l'identifier à l'empereur, est-ce que ça c'est propre à Prodrome ou est-ce qu'il y a déjà des poètes politiques, encomiastiques, qui font déjà ça avant Prodrome?
Alors, l'utilisation quand même de David en tant que chantre, bon, c'est certainement pas un unicum chez Prodrome. Alors, bon, le corpus des éloges impériaux est tellement vaste que je pourrais pas vous donner une réponse qui soit fiable, enfin, à 100%. Donc, moi, j'ai regardé très près donc mes deux discours en prose en parallèle. Et alors, ce que j'ai constaté, c'est que chez Bassilakès, il y avait une occurrence, les discours sont longs, hein, c'est des discours qui font enfin, plusieurs dizaines de pages, donc il y a quand même beaucoup de matériaux. Et chez Bassilakès, donc David, évidemment, il est mentionné en tant que figure impériale, par contre, il est mentionné une seule fois en tant que chantre, et il n'y a pas d'assimilation explicite de Bassilakès au chantre. Donc, il y a une citation, en fait, d'un psaume de David, comme dit donc David, le chantre, etc. Par contre, chez Italicos, on a un exemple, mais un seul à l'intérieur de tout le discours, qui ressemble à ce qu'on peut trouver chez Prodrome. Je ne sais pas si... ou pour le coup, il se compare là, à la figure de David en tant que célébrant. Mais un seul exemple, alors que vraiment, on en a pléthore dans nos poèmes historiques.
Merci.
C'est pour ça que je pense qu'il y a un lien avec la forme poétique. Je pense que le fait de recourir à la forme poétique a encouragé ce jeu d'assimilation.
Merci. Il y a une question de Nicolas Drocourt. Corinne, est-ce que vous la lisez ou est-ce que je peux la lire, hein? Vous voyez, voilà, d'accord.
C'est Yannick. Alors, en fait, moi, quand j'ai parlé d'aspect clanique, la seule chose, en fait, qui m'avait frappée, c'est ces références, non pas seulement à l'empereur dans les éloges de Jean II, mais également à ses fils, qui sont quand même mentionnés assez fréquemment. Donc, en particulier dans le poème 17, il y a tout un passage, enfin, ça doit faire deux strophes entières, où Prodrome utilise la vision d'Ézéchiel, puisque dans le passage en question, en fait, il va emprunter la voix d'Ézéchiel. Alors, la vision avec les quatre bêtes, comme tu poses de la tétrade des fils de Jean II. Et puis, bon, ce qui apparaît aussi quand même assez fréquemment, c'est le motif de la tuquée comnénis, de la fortune des comnènes, une fortune donc qui s'est manifestée de génération en génération, donc à partir d'Alexis, enfin non, même il remonte plus haut, enfin avant même la prise de pouvoir d'Alexis, il remonte vraiment aux origines de la famille. Voilà, mais pour ce qui est de l'administration, alors là, j'avoue, je n'ai pas regardé du tout. Je ne suis pas sûre que ça soit un élément qui soit tellement exploité dans les textes en question. Mais enfin, peut-être si on les reprenait, évidemment, sous ce biais, on trouverait du matériau.
Moins de mentions synégétiques chez d'autres panégyriques du XIIe siècle.
Ah oui, il y en a plein. Oui, oui, ça fait vraiment partie. Par contre, ce qu'il faudrait regarder, enfin, je pense que c'est plus rare dans les panégyriques antérieurs. Donc ça, probablement, ça fait partie des éléments nouveaux qu'on constate au XIIe siècle. Bon, je n'ai pas insisté parce que c'est vraiment un élément qui a déjà été beaucoup travaillé, en particulier par Magdalino, évidemment, qui a écrit des choses superbes sur la question. Donc, c'était pas vraiment utile, enfin si, pour le public non byzantiniste, mais bon, je voulais pas reprendre trop de choses quand même qui avaient déjà été dites, enfin même si j'ai repris beaucoup de choses qui ont déjà été dites, évidemment.
Merci. J'en profite, il y a une question de Martin Aurel, je vous poserai éventuellement la mienne après, donc je vous laisse la lire, Corinne, c'est aussi simple.
Oui, alors Guerre sainte, ça aussi nouveau au XIIe siècle, pour le coup dans les panégyriques, c'est vraiment quelque chose qui est mis en avant par la dynastie Comnène et par ses encomiastes. Oui, il est un petit peu question quand même parfois du patriarche dans certains des textes, par exemple la description du triomphe de 1133, parce qu'évidemment, le patriarche de Constantinople faisait partie prenante de la cérémonie, donc il est mentionné dans les éloges de Prodrome. Là, j'avoue, je n'ai pas regardé très près. Non, Prodrome n'est pas prêtre. C'est un laïc. Je réponds de manière un petit peu décousue. Excusez-moi, il y avait plusieurs choses dans la question.
Je voulais juste poser une question très je pense qu'il appelle une réponse très brève. Est-ce qu'on a à cette époque des textes qui sont éventuellement panégyriques, qui sont écrits et en prose et en vers, des prosimètres?
Ou est-ce que la... À ma connaissance, il y a des auteurs qui ont écrit des éloges en prose et des éloges en vers. Prodrome lui-même, d'ailleurs, il a composé quelques textes en prose, même si la majorité de sa production est poétique. Et puis, Italicos prétend, enfin, il dit dans le texte dont j'ai parlé, qu'il avait composé des éloges poétiques, mais on ne les a pas conservés. Non, je n'ai pas connaissance, en fait, de textes qui soient des panachages.
D'accord, merci. Ah, est-ce que c'est un laïc marié ? Demande Alban.
Alors, est-ce qu'il était marié ? Ben, à vrai dire, je ne sais pas trop. Alors, Ptocoprodrome, donc dans la série des poèmes ptocoprodromiques qui sont peut-être de sa plume aussi, lui est marié et se plaint beaucoup de sa femme. Mais évidemment, c'est une figure littéraire. Donc, c'est difficile de projeter sur l'auteur lui-même ce qui est associé à la persona, enfin, surtout en plus, une persona comique.
Voilà, mais c'est un laïc au sens plein du terme, je veux dire. C'est pas ce qu'on appellerait un régulier en Occident. Quoi. C'est...
Alors, pour ce qu'on sache de sa carrière, il a enseigné un petit peu la rhétorique, mais de manière assez subalterne. Et puis, c'est une figure en fait nouvelle dans la Byzance du XIIe siècle, un écrivain professionnel quand même d'abord et surtout. Enfin, d'où le fait qu'il pleure famine, parce que bon, il avait peut-être quelques subsides qui étaient liés à son enseignement, mais ça ne devait pas lui rapporter quand même énormément d'argent. Donc, il avait vraiment besoin de ces commissions d'aristocrates ou de commissions impériales, comme il a dû en recevoir lorsqu'il a composé ses poèmes pour l'Édème, puisque bon, il devait être payé. Enfin, on imagine que là, il y avait quelqu'un, enfin, l'organisateur de la cérémonie qui avait dû faire appel à lui parce que c'était bon, le poète à la mode et qui, évidemment, l'a payé en contrepartie de sa prestation. Après, j'allais dire, il a écrit un grand roman d'amour, mais enfin, on pourrait aussi écrire un roman d'amour à l'eau de rose tout en étant prêtre. C'est pas forcément, c'est pas très bien vu, mais enfin, il a écrit un certain nombre de satires aussi. Enfin, vraiment des textes tout à fait profanes. Enfin, après, je sais pas. Dans les poèmes à composante autobiographique, parce qu'il y en a un où il raconte qu'il a attrapé la vérole. Bon, alors, je ne sais pas du tout s'il y a des détails concernant sa famille. Je n'ai pas de souvenir, mais il faudra aller regarder de près. Ah oui, il est mort comme moine, mais ça, bon, c'est un grand classique à Byzance de recevoir la tonsure juste avant de rendre l'âme. Ça permet d'avoir une garantie pour aller au paradis. Donc, bon, il y a beaucoup d'autres cas du même genre.
Oui, c'est ce que je disais. Le fait de, enfin, c'est la même chose en Occident, à la même époque, hein, mourir. Après avoir fait profession monastique, c'est effectivement une bonne garantie d'aller.
Après, sur ces vieux jours, il était hébergé dans un monastère. Il avait une pension, apparemment, une espèce de pension alimentaire, enfin, parce qu'il était en mauvaise santé, etc. Donc, c'est visiblement rapproché de la religion sur ces vieux jours.
Bon, ben merci beaucoup. On regrette beaucoup de ne pas avoir pu vous recevoir en chair et en os pour cette session. Mais voilà, dans les conditions actuelles, c'était vraiment très bien d'avoir pu faire ça de cette manière. Et merci. Voilà.
C'est quand même un bon succès d'année, merci à vous.
Bien. Eh ben,
voilà,
merci.
Bon week-end à tout le monde.
Merci à tout le monde. On rend l'antenne, si je puis dire. À bientôt.
On rend l'antenne. Voilà, j'arrête l'enregistrement.